Chapitre 1er. En lisant l'Épître aux Galates, on voit qu'une fausse doctrine, de nature grave, avait pénétré les assemblées de la Galatie. On enseignait que ceux qui croient doivent être circoncis et observer tous les préceptes de la loi de Moïse, sinon ils ne peuvent pas être sauvés. On ne niait pas directement la vérité sur la personne de Christ, ni les faits de sa mort et de sa résurrection, ni la nécessité de la foi en Christ, mais on affirmait que la foi en Christ et en son œuvre ne suffisait pas pour le salut. Cette fausse doctrine insistait pour ajouter nos œuvres à l'œuvre de Christ en vue du salut. Elle mettait de côté la suffisance de l'œuvre de Christ et la justification par la foi. Cette fausse doctrine avait été introduite dans les assemblées de la Galatie par des docteurs judaïsants qui avaient trouvé une entrée parmi les saints. Leur attaque portait sur la vérité, mais ils ne procédaient pas en s'opposant frontalement à la vérité. Ils préféraient attaquer personnellement celui qui enseignait la vérité. Ils cherchaient à persuader les saints que, l'apôtre Paul n'ayant été envoyé ni par Pierre ni par les autres apôtres, son apostolat n'était donc pas revêtu d'autorité divine. Du fait qu'il était venu sans autorité divine, eux ne pouvaient plus continuer à accepter l'évangile qu'ils prêchaient comme étant la vérité. Ainsi, au lieu de s'opposer directement à la vérité en question, ils s'étaient mis à dénigrer l'apôtre. Chapitre 4, verset 16. Hélas, dans les conflits parmi ceux qui professent être le peuple de Dieu, des tactiques de ce genre ont trop souvent été adoptées. En bref, les deux grands maux dans lesquels étaient tombées les assemblées de Galatie étaient les suivants. D'une part, l'insistance sur la nécessité de garder la loi pour être sauvé, et d'autre part, l'adoption d'une succession apostolique ou principe clérical pour être un serviteur du Seigneur. Pour répondre à ces deux maux, l'apôtre commence par refuser catégoriquement la succession apostolique en établissant que son apostolat dérivait directement de Christ lui-même. Puis il affirme l'impossibilité de combiner la loi et l'évangile comme moyen de salut. Dans la partie introductive, l'apôtre donne un bref résumé des deux grands sujets de son épître. Dans les versets 1 et 2, il résume la vérité de son apostolat. Dans les versets 3 à 5, il résume la vérité de son enseignement. Versets 1 et 2, l'apostolat de Paul. Citation de l'Écriture. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux assemblées de la Galatie. Fin de citation. L'apôtre commence par affirmer que son apostolat n'était pas de la part des hommes, quant à sa source, ni par l'homme, comme canal. Il est évident que dans l'apostolat de Paul, il n'y avait ni succession provenant d'autrui, ni ordination par autrui. L'affirmation « ni par l'homme » quant à l'apostolat de Paul casse tout le principe clérical. Ceux qui sont impliqués dans le système clérical admettront volontiers que leur autorité n'émane pas de la part des hommes, mais ils ne diront pas, et ne peuvent pas dire, qu'elle n'est pas par l'homme. Paul a reçu son autorité et sa direction ni par Pierre ni des douze, mais de Christ ressuscité. L'apôtre ajoute à l'importance de son épître en s'adjoignant tous les frères qui étaient avec lui. Il montre ainsi que les assemblées de Galatie étaient non seulement en train d'abandonner les vérités que lui enseignait, mais qu'elles abandonnaient la foi commune des frères. C'est en tout cas pour nous un avertissement qui devrait nous retenir avant de soutenir quelque chose de contraire à la vérité tenue par tous les frères. Versets 3 à 5. Les vérités enseignées par Paul. Citation de l'Écriture. Grâce et paix à vous de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Fin de citation. Après avoir affirmé la vérité de son apostolat, l'apôtre, dans les versets suivants, donne un résumé bref, mais magnifique, des vérités qu'il enseignait. Tout d'abord, il proclamait la grandeur et l'efficacité de l'œuvre de Christ. celui qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Revenir à la loi et à ses cérémonies, comme pour ajouter à l'efficacité de l'œuvre de Christ, c'était porter atteinte à Christ lui-même. Cela revenait à dire pratiquement que le don inestimable de s'être donné lui-même n'était pas suffisant. Deuxièmement, l'œuvre de Christ non seulement règle la question des péchés du croyant, mais elle délivre de ce monde mauvais, ce présent siècle mauvais. Ceux qui voudraient nous ramener sous la loi désirent avoir une belle apparence dans la chair, chapitre 6, verset 12, et nous rattacher ainsi au monde. Troisièmement, la vérité enseignée par l'apôtre était selon la volonté de notre Dieu et Père, et, par-dessus tout, elle contribue à la gloire de Dieu au siècle des siècles, c'est-à-dire pour toujours. Remettre les croyants sous la loi, c'était tout simplement se livrer à la volonté de l'homme et exalter les hommes en cherchant à avoir une belle apparence dans la chair, et donc à se glorifier dans la chair. Chapitre 6, versets 12 et 13. Ainsi, au début de son épître, l'apôtre présente l'efficacité de la personne et de l'œuvre de Christ qui répond à nos besoins en nous séparant du monde et en accomplissant la volonté de Dieu pour la gloire éternelle de Dieu. Hélas, la chrétienté est largement tombée dans l'hérésie des Galates. Tout en faisant profession de christianisme, elle met pratiquement de côté l'œuvre de Christ au profit des œuvres des hommes. Elle laisse les hommes dans le monde avec la vaine préoccupation d'en faire un monde meilleur et plus brillant, et elle cherche à exécuter la volonté de l'homme en vue de la gloire de l'homme. Après ces versets introductifs, l'apôtre présente dans les chapitres 1 et 2 certains faits historiques le concernant qui prouvent l'autorité divine de son apostolat entièrement en dehors de l'homme. Ensuite, dans les chapitres 3 à 6, il réaffirme son enseignement et ses effets en contraste avec la loi et le résultat pour ceux qui s'y assujettissent. Versets 6 et 7. Citation de l'Écriture. Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent, qui n'en est pas un autre. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Fin de citation. L'apôtre commence par exprimer son étonnement devant l'inconséquence des Galates. Il fut un temps où il l'avait reçu comme un ange de Dieu comme le Christ Jésus. Chapitre 4, verset 14. Maintenant, leur attitude avait complètement changé et ils remettaient en cause son autorité. Pis que cela, en rejetant l'apôtre, ils rejetaient également l'évangile qu'il prêchait. Le seul vrai évangile, car Paul ne voulait admettre aucun autre évangile que celui qu'il prêchait. En contraste avec Paul, par l'intermédiaire duquel l'évangile de la grâce de Dieu leur avait été apporté, ceux qui troublaient les croyants de Galatie ne prêchaient pas l'évangile de Christ, mais une perversion de l'évangile. Ces faux docteurs ne niaient pas directement les faits de l'évangile, mais ils les pervertissaient. Une perversion est souvent plus dangereuse qu'une simple négation, car dans une perversion, il y a assez de vérité pour tromper les irréfléchis et suffisamment d'erreurs pour rendre la vérité sans effet. L'apôtre aborde ainsi les deux formes d'éloignement de la vérité dans lesquelles les assemblées de Galatie étaient en train de tomber. Premièrement, ils abandonnaient l'autorité divine de la parole de Dieu et affirmaient l'autorité humaine. Deuxièmement, ils abandonnaient le pur évangile comme voie du salut et revenaient à la loi et à la tradition humaine. N'est-ce pas, hélas, les deux mots qui ont si largement corrompu la profession chrétienne d'aujourd'hui? Versets 8 et 9. Citation de l'Écriture. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, maintenant aussi je le dis encore, si quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Fin de citation. Avant de poursuivre, l'apôtre prononce une malédiction en termes extrêmement solennels et ardents sur tous ceux qui prêchaient un prétendu évangile contraire en quelque manière à celui qu'ils avaient reçu par sa prédication. Si l'apôtre lui-même ou même un ange annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème. Ce sont des mots qui excluent complètement tout développement ou nouvelle lumière apportée par des hommes et mettant de côté la pleine suffisance de l'œuvre de Christ pour assurer le salut à quiconque croit. Verset 10. Citation de l'Écriture. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Fin de citation. En prononçant ces paroles claires et solennelles, Paul manifeste qu'il n'était pas quelqu'un cherchant simplement à plaire aux hommes ou prêt à abandonner la vérité et à faire des compromis avec l'erreur pour être bien vu des foules. Personne n'était plus doux, humble et plein de grâce que l'apôtre, mais personne n'était plus hardi, plus véhément et plus direct et franc si la vérité était en jeu. S'il en avait été autrement, il n'aurait plus été esclave de Christ. Il est bon que tout serviteur suive son exemple, comme lui aussi suivait Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. En présence d'insultes, le Seigneur gardait le silence. Marc 15, verset 3 à 5. Quand il est question de rendre témoignage à la vérité, il parlait franchement. Jean 18, verset 33 à 38. Versets 11 et 12. Citation de l'Écriture. Or je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme. Car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. Fin de citation. Après avoir donné ses avertissements pour commencer, l'apôtre fait une déclaration détaillée sur l'autorité divine de l'évangile qu'il prêchait. Il revendique trois points précis pour l'évangile. Premièrement, l'évangile qu'il prêchait n'était pas selon l'homme. Les hommes rêvent d'un évangile qui exalte l'homme en lui offrant une bénédiction résultant de ses efforts. L'évangile de Dieu apporte certes la bénédiction éternelle à l'homme, mais il le fait d'une manière qui apporte une gloire éternelle à Dieu. Deuxièmement, l'évangile prêché par Paul n'avait pas été reçu de l'homme. Il ne provenait pas de l'homme comme source. Troisièmement, l'apôtre n'avait pas appris l'évangile par un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Versets 13 et 14. Citation de l'Écriture. Car vous avez ouï dire quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais outre mesure l'assemblée de Dieu et la dévastais, et comment j'avançais dans le judaïsme plus que plusieurs de ceux de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Fin de citation. Pour prouver ce qu'il dit, l'apôtre survole son histoire dans les versets qui suivent. Ils en avaient bien déjà entendu parler, mais ici il ne rapporte que les incidents montrant comment Dieu s'était occupé de lui et lui avait communiqué l'évangile entièrement en dehors de toute intervention humaine. Il rappelle premièrement aux croyants de Galatie que, lorsqu'il n'était pas converti, il avait persécuté l'Église de Dieu et l'avait dévastée. Avec tous les préjugés intenses d'un juif bigot, il avait dépassé tous les autres dans sa haine de l'Église. Quand d'autres apprenaient la vérité par la prédication de l'Évangile et étaient amenés dans l'Église, il les persécutait. Son zèle pour la religion des Juifs et pour les traditions des Pères l'aveuglait à l'égard de la prédication des apôtres. Il est donc évident qu'il n'avait pas été atteint par la prédication d'autrui quand il était encore inconverti. Versets 15 à 17. Citation de l'Écriture. Mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler son Fils en moi afin que je l'annonçasse parmi les nations, aussitôt je ne pris pas conseil de la chair ni du sang, ni ne montai à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allai en Arabie et je retournai de nouveau à Damas. Fin de citation. Puis, quand il fut appelé par grâce, Paul ne prit conseil ni de la chair ni du sang. Il n'alla pas à Jérusalem, le siège de l'autorité traditionnelle, ni ne prit conseil de ceux qui étaient apôtres avant lui. C'est Dieu qui l'avait appelé, Dieu qui avait révélé son Fils en lui, Dieu qui lui avait donné mission de prêcher l'Évangile parmi les gentils. Dieu avait eu des rapports et des communications directes avec l'apôtre et indépendamment des hommes, tant ceux de Jérusalem que les autres apôtres. Versets 18 et 19. Citation de l'Écriture. Puis, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai chez lui 15 jours. Et je ne vis aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Fin de citation. Après avoir passé 3 ans en Arabie et à Damas, l'apôtre fait une visite de 15 jours à Pierre à Jérusalem. Le seul autre apôtre qu'il ait vu fut Jacques, le frère de notre Seigneur. Il ne s'agit donc pas d'une visite officielle pour recevoir des instructions, ni d'une ordination, mais plutôt d'une visite personnelle pour faire connaissance de Pierre. Versets 20 à 24. Citation de l'Écriture. Or, dans les choses que je vous écris, voici devant Dieu je ne mens point. Ensuite, j'allais dans les pays de Syrie et de Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux assemblées de la Judée qui sont en Christ. Mais seulement elles entendaient dire « Celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il détruisait jadis. » Et elles glorifiaient Dieu à cause de moi. Fin de citation. L'apôtre donne une importance solennelle à ses paroles en nous rappelant qu'il parle devant Dieu, et il ajoute « Je ne mens point ». Il serait bon que nous tous, en tout temps, nous parlions ainsi dans la pleine conscience que nous sommes dans la présence de Dieu et que nous puissions vraiment dire « Voici devant Dieu, je ne mens point ». Après sa visite à Jérusalem, il alla dans les régions de Syrie et de Cilicie. Bien loin de recevoir aucune communication ou instruction ou de l'autorité de la part des assemblées de Judée, il leur était inconnu même de visage. Elles savaient seulement que ce persécuteur était devenu prédicateur de la foi qu'il avait cherché à détruire. Entendant ce qu'il faisait, elles n'avaient pas interféré avec l'apôtre ni ne lui avaient donné des instructions ou des conseils, pas plus qu'elles ne s'étaient plaintes qu'il prêchait en dehors de l'autorité des 12. Mais elle glorifiait Dieu pour tout ce qu'il faisait dans l'apôtre et par l'apôtre. Ainsi, l'homme même que ces faux docteurs cherchaient à dénigrer était celui en qui les assemblées de Judée, le centre du système légal, avaient trouvé occasion de glorifier Dieu.